Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
J'ai oublié de mettre la liste à jour, ça me rappelle mes responsabilités. Fait que c'est moi qui n'ai pas mis le bon prédicateur sur l'horaire. Je remplace Richard qui fait un déménagement de sa fille, je pense. Oui, je pense qu'ils se sont achetés une maison. Puis il les aide à déménager. Tournez avec moi si vous voulez. Si vous avez vos bibles électroniques ou non encore votre bible, ça va être dans Matthieu chapitre 3. Puis vous allez pouvoir aussi mettre votre doigt dans Jean chapitre 1. Ça va être nos deux longues lectures de passage ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui a déjà été donnée abondamment. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à réfléchir avec toi, Seigneur Dieu, sur le sens de notre baptême, Seigneur. La majorité d'entre nous, nous avons déjà été baptisés, mais nous devons marcher maintenant dans cette réponse qu'on a faite lorsqu'on s'est fait baptiser. Une réponse d'un engagement qui est d'une bonne conscience, de marcher avec une bonne conscience devant notre Dieu. Je te prie pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. Seigneur, je pense à Cathy qui va le faire bientôt, Seigneur Dieu. Puis les autres qui ne seraient pas baptisés aussi, je te prie de parler à leur cœur. Si quelqu'un entend cet enseignement, puis qui n'a pas encore réfléchi sur le baptême, bien c'est une bonne place à commencer, même si on ne connaît pas tout à fait ce que Jésus a fait pour nous. Amen. OK, donc on lit dans Matthieu 3, 13 à 17. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, puis toi, tu viens à moi? » Verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quel passage! Super passage du baptême de notre Seigneur. Mais avant de parler du baptême de notre Seigneur 1-2, je dois rapprocher ça encore plus. On me dit à l'audiovisuel que mon micro n'est pas assez proche. Je ne sais pas quoi faire. Au son, peux-tu monter un peu mon son? Parfait. Excellent. Avant de parler du baptême de Jésus, je vais parler du baptême de Jean, Jean-Baptiste, qui est le petit cousin de Jésus. À ne pas confondre avec l'évangéliste Jean, c'est pas le même. On en a parlé dans mes deux derniers messages, on a parlé surtout de la repentance, puis je vais revenir juste un petit peu sur le baptême. Il y a deux mots grecs pour le baptême. Il y en a un qui, c'est le mot « bapto », qui veut dire, on utilisait ce mot-là même pour teinturer quelque chose. Quand tu plongeais un tissu, puis que quand tu le ressortais, il était d'une autre couleur, tu avais identifié le tissu à une nouvelle couleur. Donc, c'est une identification. Le baptême se trouve être une immersion. L'autre mot, c'est « baptizo », qui veut dire « immerger dedans »,« immerger ». Donc, dans le Nouveau Testament, on ne voit pas d'eau mise sur le front ou quelque chose comme ça. Ce sont des traditions qui ont été ajoutées plus tard dans l'Église parce que les gens disaient « si je me fais baptiser, il faut aussi que je le suive, puis je ne suis pas prêt à le suivre, fait que je me ferai baptiser plus tard, mais là, il tombait malade, tombait quadriplégique. » Puis là, ben l'Église a comme transformé un peu le rituel du baptême. Hein? Ben on peut pas t'immerger, ben on va quand même te mettre de l'eau dans le front, puis on va appeler ça un autre sacrement, qui est l'extrême-onction. Fait qu'on n'en parlera pas trop, on va surtout parler de l'immersion, mais le Nouveau Testament ne connaît pas non plus le baptême des enfants. La seule chose qui se rapproche, c'est qu'ils furent baptisés, lui et toute sa famille ou toute sa maison. Mais une maison, ça pouvait contenir 100-125 personnes dans ce temps-là. Puis c'était l'usine familiale. C'était tous ceux qui travaillaient dans le champ. Il y avait les serviteurs, puis on appelait tout ça la maisonnée. Fait que, il n'y a rien qui dit que des enfants qui étaient en bas âge se faisaient immerger dans l'eau. Donc, c'est toujours en réponse à la foi. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans le judaïsme, le baptême, ça existait bien avant la venue de Jésus puis de Jean-Baptiste. On baptisait les gens pour qu'ils se fassent juifs. On les baptisait d'eau. Puis, si tu étais un gentil, par exemple, un gentil, c'était quelqu'un qui n'était pas juif. Puis, si tu étais un païen, c'est que tu étais un gentil qui adorait d'autres dieux. Puis, quand tu arrivais pour être baptisé, il fallait que tu renonces aussi à ton passé religieux. Ça veut dire que si tu croyais que c'était, je ne sais pas, le Dieu du soleil ou le Dieu de si qui te sauvait, bien là, tu te faisais juif, puis tu disais non, c'est le Dieu d'Israël qui est mon sauveur. Tu renonçais à ton passé religieux. Donc, il y avait une scission qui se faisait quand tu voulais devenir une personne juive. Bien, en tout cas, que tu voulais faire partie du peuple, puis profiter de son alliance. Donc, c'est une identification à un message, une personne ou un groupe. Ça peut être ou là. C'est un ou exclusif, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir tout. Puis on va voir qu'effectivement, le baptême de Jean-Baptiste, c'est un baptême pour une personne et pour un message. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était quoi? C'était « Identifiez-vous à un roi qui s'en vient très bientôt ». Je vous l'annonce. Puis le message, c'était « Repentez-vous ». Si tu extorquais, n'extorque plus avec l'argent. Si tu avais une position d'autorité et tu abusais des gens qui étaient sous ton autorité, arrête de faire ça. Jean-Baptiste donnait des conseils. Il y avait un message qui devait porter le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire, la repentance, on avait vu dans un dernier message que c'était y penser après coup. Revenir et dire « Ouais, moi aussi j'ai besoin d'être baptisé. Ouais. » Moi aussi, je suis coupable. Moi aussi, j'ai besoin de me repentir devant le roi qui va venir bientôt en la personne de Jésus. Fait que dans Acte 10, on voit à un moment donné Pierre qui est appelé à aller voir un gars qui s'appelle Corneille. Puis les prières de Corneille étaient montées jusqu'à Dieu. Puis ses offrandes qu'il faisait pour les pauvres avaient touché l'Éternel. Puis c'est écrit que les offrandes étaient montées vers lui. Puis que Dieu avait aimé ça. T'sais. Il aimait ces prières-là de ce gars-là. Mais ce gars-là connaissait pas l'Évangile, mais c'était un croyant, qu'on pourrait dire, de l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui n'avait pas connu qu'est-ce que Christ était venu faire, tout ça, mais du mieux qu'il pouvait, il voulait servir le Seigneur. Mais il lui manquait encore quelque chose, il lui manquait de connaître ce que Jésus avait fait pour lui. Pierre lui explique tout, explique le baptême de Jésus, que Jésus a été baptisé, mais qu'il a reçu le Saint-Esprit, etc. On va lire un passage de ce message-là, justement. Puis, il va se passer quelque chose qui s'est passé dans acte 2. C'est qu'ils vont avoir le même signe initial, un signe où ce qu'ils vont être remplis d'une plénitude au point qu'ils vont parler dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Comme dans acte 2. Puis, tu vas voir ça se répéter dans 13, dans 19. Puis, les Juifs sont là. Comment se fait qu'ils vivent la même affaire que nous, on avait vécu aussi à la fameuse Pentecôte, tu sais? Et c'est ce qu'il dit, non seulement... ils ont de l'air à croire qu'est-ce qu'on a cru, mais en plus de ça, ils vivent la même expérience que nous. Donc, ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit au point d'exercer dans le don du parler en langue. Mon message, je ne sais pas si on va parler en langue, mais on voit que... Puis là, ils disent, bien là, à cette heure qu'ils ont... je veux dire, ils viennent déjà de vivre là un peu l'expérience qu'on a vécue dans Acte 2. Ils ont reçu le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit leur a même donné de parler en langue. Bien, qu'est-ce qui nous empêche de les faire passer par les eaux du baptême? Puis là, on voit dans Acte 13, Paul prêche, il dit « Jean avait baptisé le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Alors que Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, vient après moi celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des chaussures. » Fait que Paul prêche, puis il dit « Garde, il prêchait le Messie à venir. Il est venu juste un peu avant Jésus-Christ. Et son message, c'était quoi? » Le roi vient, puis je ne suis même pas digne d'être le dernier de ses esclaves, celui qui délie les chaussures avant de faire le lavement des pieds. Je ne suis même pas digne de prendre la position d'un serviteur tellement que je sens mon indignité face à lui. Et Jean-Baptiste, on le voit dans les quatre évangiles, on voit que Jean-Baptiste, il dit ça. Il dit, celui qui vient après moi, là, il va baptiser d'esprit et de feu. moi, je viens pour baptiser d'eau, puis je viens pour... Je suis une voix. Il dit même pas je suis quelqu'un, je suis une voix qui crie dans le désert. Portez pas apparence, portez pas trop d'attention à mon apparence. Hein? Il était habillé avec des vêtements d'animaux, puis une ceinture de cuir, puis il ressemblait plus au Fred Caillou, là, si on pourrait faire une référence à aujourd'hui. Puis il mangeait des sauterelles avec du miel, puis il a vécu dans le désert de longues années, fait que la barbe, tu sais, je veux dire, il devait avoir une partie de son lunch dans sa barbe. Puis dans Acte 19, on voit quoi? Paul fait son troisième voyage missionnaire, commence à Corinthe, puis il dit, coudonc, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez vécu? C'est quoi ça, le Saint-Esprit? Il dit, ben coudonc, de quel baptême vous avez été baptisé? Ben on a été baptisé du baptême de Jean. Ah! Fait que qu'est-ce qu'il va faire avec eux autres? Ben il va leur dire que Jean, il va dire en Acte 19, au verset 4, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Fait que, petite mise à niveau, version 2. C'est comme, OK, t'es un croyant, mais plus un croyant de l'Ancienne Alliance, parce que t'as cru au dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, qui annonce le Messie, mais t'as pas fait le baptême en Jésus. Donc, le baptême de Jean n'était pas le baptême de Jésus. C'est-à-dire le baptême des disciples au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y avait un autre baptême dans le livre des Actes que si tu avais vécu le baptême de Jean-Baptiste, il fallait quand même que tu passes par les eaux du baptême. Puis là, Jésus, il arrive, Luc dit qu'il a à peu près 30 ans. En fait, il y a 30 ans. Non, Luc dit qu'il avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Puis c'est le premier geste public que Jésus va faire qui va le démarquer du petit Jésus de Nazareth là, tu sais, qu'on connaît. Qui vient à Pâques à chaque année à Jérusalem, puis qu'il est comme avec tous les autres enfants. Il fait son école du dimanche, on pourrait dire. Mais là, il y a 30 ans, puis il devient manifeste publiquement que c'est lui le sauveur, puis son entrée est quand même assez importante. Il va se faire baptiser. Et c'est un geste qu'on aurait le droit de se poser la question, pourquoi, si Jean prêche le baptême de la repentance en vue d'un Messie qui doit venir, comment que le Messie qui doit venir devrait se faire baptiser? Bien, c'est ce qu'on va voir un petit peu ensemble. Et on va relire le verset 13 et 14 de Matthieu 3, si vous avez encore votre Bible ouverte. « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Et je pense que s'il disait qu'il ne pouvait pas délier la courroie de sa chaussure, encore moins être celui qui le baptise, puis en plus, Jésus n'a pas besoin de repentance, il n'a pas besoin de rien, juste, c'est comme, c'est quoi qui se passe là? Son indignité devait être au plafond de se faire baptiser, il était petit dans ses shorts. Puis, la réaction est forte, mais... Au verset 15, Jésus va lui donner une réponse. Il va dire, il est « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste, et Jean ne résista plus. » Ça me fait penser au lavement des pieds quand Pierre il dit à Jésus, « Non, c'est pas toi qui vas me laver les pieds, c'est moi qui vais te laver les pieds. » Tu sais, il y a un sentiment d'indignité, il a besoin d'être lavé, il a besoin d'être pardonné. Tu sais. Jésus, il dit, laisse faire, parce qu'il dit, toutes les ordonnances, juste, il est convenable qu'on les fasse. Puis le mot, c'est ça dans l'original, c'est pas, faut faire juste ce qui est juste. Puis là, c'est là que la richesse de l'original nous aide là, à comprendre que Jésus ici, il dit que c'est une ordonnance qui est juste. C'est un ordre qui a été demandé de la part de Dieu, le Père, qui avait envoyé Jean-Baptiste baptiser, puis Jésus-Christ est un Juif. Et il veut se faire baptiser, obéir au Père. Puis il y a une raison autre que les pécheurs pour se faire baptiser. Mais il voit quelque chose de juste à accomplir, puis c'est juste qu'on le fasse. Et je pense qu'à la fin de mon message, n'importe quelle personne qui m'écoute, qu'elle soit croyante ou non, baptisée ou non, elle va arriver à la conclusion, si elle réfléchit un petit peu, que c'est juste de se faire baptiser. C'est la moindre des choses que de se faire baptiser si on croit à l'Évangile. Donc, Jésus dit... C'est juste de l'accomplir, cette ordonnance-là. Donc, c'est un ordre qui a été demandé du Père. Ce serait juste normal que je le fasse. Et c'est un geste prophétique parce que Jésus est venu pour accomplir toute la loi de Moïse. Ça, c'était pas écrit dans la loi de Moïse. Par contre, le Père avait demandé à ce que le Fils se fasse baptiser parce que pour le Fils, il y avait l'onction royale, sacerdotale et prophétique. Jésus allait recevoir l'onction du Père. pour exercer dans son ministère terrestre. On va voir ça tout de suite. Si vous avez votre doigt dans Jean 1, ça serait le temps d'y tourner. On va aller dans Jean 1 au verset 29. Je vous laisse tourner. Jean, versets 29 à 37. Il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifeste à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Dès le moment que cet événement-là se passe, Jean, il arrête de dire, « Venez, je vais vous baptiser en vue du Messie qui doit venir. » Tu sais, si tu es là puis tu annonces la nouvelle que quelqu'un doit arriver, là, supposons que je dis, « Stéphanie va rentrer dans la pièce, OK? »« Aïe, oïe, oïe, Stéphanie va rentrer dans la pièce. » Puis là, Stéphanie, elle rentre dans la pièce, puis je dis, « Aïe, oïe, Stéphanie rentre dans la pièce. Oïe, qu'est-ce que... » Ça ferait quoi de moi? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai pas vu que c'était Stéphanie qui était rentrée dans la pièce. Ou bien non, je suis un peu... aveugle? Ma boule. Donc, Jean-Baptiste, il devait lutter avec Dieu, puis il devait dire, écoute, moi j'entends... Écoute, ma mère, là, quand ma mère Élisabeth, là, Marie est venue la visiter, là, elle m'a dit que j'ai tressailli dans son ventre, là. Puis elle a été remplie d'une joie, puis elle a dit, qu'est-ce que ce privilège que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? Fait que, tu sais, sûrement que comment je l'ai appelée déjà? Hein? Élisabeth. Élisabeth, elle gardait ça dans son cœur, puis elle devait se dire, je veux que le Seigneur y monte. Peut-être qu'il y avait dit, tu sais, une chose est certaine, avant même qu'il baptise, il dit, écoute, je ne suis pas digne de te... Mais il faut que ça soit connu à Israël que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Puis, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Mais Jean-Baptiste, il avait une bonne idée. Mais Dieu, il disait pas, Jésus, ton cousin, c'est lui qui est le Messie. Il disait, celui que le Saint-Esprit va venir se poser sur lui, tu vas voir, ça va être ça ton point de départ. Fait qu'il était en lutte avec Dieu. Tu sais, il dit, pourtant, je pense que c'est mon cousin, mais tu sais, c'est pas écrit ça dans le texte. Ça dit juste, je ne le connaissais pas. Que tu connais ton cousin? Je veux dire, il était peut-être pas à 5 minutes de se faire ami Facebook avec. Il restait à Hébron, qui était à peu près 30 kilomètres au sud de Jérusalem, tandis que Jésus venait de la ville de Nazareth, qui était à 3 jours de marche, mettons 3 jours et demi, 4 jours de marche. Mais il allait à Pâques à chaque année à Jérusalem. Il devait, tu sais, je veux dire, les cousines, ils ont entendu dire qu'ils étaient enceintes l'une et l'autre. Fait qu'à un moment donné, les messages finissaient pareil par se rendre, tu sais, à dos de chameau, ou je ne sais pas comment. Hein, on a un fameux courriel des temps anciens. Hein. Des fois, Stéphane puis moi, on dit, hey, t'as-tu bien dans le temps? Il fallait envoyer une charrette pour envoyer un message, tu sais. Puis, bon, si on revient à notre charrette, ici, pas à Pierre. Pierre, prend pourquoi pas ce personnage? Je fais des jeux de mots aujourd'hui. Je fais de l'esprit. OK, pour revenir. Il dit, je ne le connaissais pas. Si on joue au loup-garou ensemble, puis que pendant qu'on joue au loup-garou, ma femme, c'est le loup-garou, puis à la fin de la game, je dis, en tout cas, je ne le savais pas. Je ne le savais pas que tu étais le loup-garou. C'est pas que je connais pas ma femme. C'est que je ne savais pas qu'elle était... Que le loup-garou, c'était elle. C'est plutôt l'inverse. Je ne savais pas que le loup-garou, c'était elle. Mais Steph, je la connais. Souvent, juste la façon qu'elle marche, je sais comment elle se sent. Fait que je la connais. J'ai comme appris à percevoir des choses. Tu sais. Mais c'est la même affaire. Jean, je n'ai pas en train de dire Jean-Baptiste, je ne connaissais pas mon cousin. Il est en train de dire, je ne connaissais pas le Messie. Je ne connaissais pas l'évidence du Messie. Et il demandait à Dieu, probablement un signe, Dieu lui donne un signe. OK. Donc, le mot pour « je ne le connaissais pas », c'est « eido », c'est « percevoir ». Quand que c'est utilisé au sens littéral, c'est de voir quelque chose, voir clairement. Il vire son étoile et le suivir, le mot « eido », percevoir. Mais quand c'est utilisé au sens figuré, ça a plus « percevoir ». Comme par exemple, quand vous demandez au Père de pourvoir pour votre pain quotidien, là, dans Matthieu 6, il sait déjà que vous en avez besoin avant que vous le demandiez. Le mot pour savoir, là, c'est le mot percevoir, c'est le mot eido, c'est-à-dire il perçoit avant même que vous l'ayez demandé que vous avez besoin d'un pain, t'sais. Vous avez besoin de nourriture. Donc, Jean ne percevait pas ou n'avait pas cette, il n'était pas allumé de percevoir que c'était, que le Messie, ce serait son cousin. OK. Jean, l'apôtre Jean, quand il écrit l'évangile de Jean, il dit « Je vous écris ces choses ». Il va dire dans les premières épîtres de Jean « Afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Dans Jean 20, c'est écrit « Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu ». Et au chapitre 1 de son épître, il va dire ce qui était dès le commencement à la création, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui nous a été manifestée. Et ici, Jean-Baptiste, non seulement il va le voir, il va s'émerveiller, mais en plus de ça, il va le toucher, il va l'immerger dans l'eau. L'apôtre Jean va manger avec lui, Jésus va briser le pain, ils vont coucher ensemble sur le bord du chemin, à quelque part, sur le bord d'un feu. Il l'a vu, il l'a touché. Puis imagine le Dieu créateur des cieux et de la terre qui vit avec toi pendant 2 ans et demi, 3 ans. Ben, Jean, c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que nous l'avons vu? Nous en rendons témoignage. Et quel beau témoignage. Et pourquoi est-ce que Jean peut rendre témoignage d'un émerveillement? C'est que lui, il a vu deux fois. Il a vu la voix du ciel, la batcole. On va en parler tantôt. Il a entendu la voix du ciel deux fois dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il l'a entendu sur le monde, la transfiguration. Écoutez-le, suivez-le, écoutez ce qu'il va vous dire. Donc, il dit ce qu'on a vu, ce que nos mains ont touché, on était émerveillés, eh bien, on vous en rend témoignage. Et pourquoi est-ce que les gens, comme les évangélistes, ils peuvent en rendre témoignage? C'est qu'il y a eu, pas juste pour eux, mais aussi pour le peuple d'Israël, il y a eu des preuves extraordinaires. Et là, il se passe quelque chose, il y a une voix du ciel qui se fait entendre. La Trinité est présente ce jour-là. Puis, dans le fond, le Père rend témoignage à son Fils. Et il va dire, au verset 16... Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix se fit entendre des cieux et ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » La Trinité est présente. Le Père qui a envoyé le Fils dit, « Ça, c'est mon Fils. » Le Fils qui se fait lui-même baptiser et le Saint-Esprit qui descend sur lui comme une colombe. Le mot qui est utilisé dans la Septante pour couvrir la terre, quand le Saint-Esprit couvrait la terre dans Genèse chapitre 1, verset 2, c'est écrit « L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux ». Ça parle de couvrir comme une mère oiseau couvre un nid. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ici, le Saint-Esprit est comparé à une colombe, puis le mot merachéphet, c'était juste un oiseau qui couvre. Mais au temps de Jésus, dans la littérature rabbinique, c'était pas juste un oiseau qui couvre, mais c'était une colombe. Donc, dans la tête d'un Israélite, une colombe, c'est un oiseau qui couvre. Puis, dans la littérature rabbinique, quand on fait les commentaires sur Genèse 1 et 2, quand il y avait juste de l'eau, là, puis que le Saint-Esprit était entre les deux, il couvrait, la terre n'était pas encore divisée avec l'eau. L'Esprit-Saint couvrait la vie qui allait sortir. Il y a l'eau que l'eau produit, là, la voix des cieux à la création, la voix qui vient des cieux a dit qu'il y a de la vie, puis là, il y a eu de la vie. L'eau produit de la vie. Ah ouais? L'eau peut-elle produire de la vie? Le Saint-Esprit a certainement quelque chose, il est l'agent créateur qui amène la vie dans la terre, dans l'eau et dans les cieux. T'sais. Et là, le Saint-Esprit, il est là, puis il descend comme sur une forme corporelle, puis c'est la forme corporelle d'une colombe. Puis là, pour un juif, c'est pas hors contexte, parce qu'on était habitué d'entendre la bat-col. La bat-col, c'était la voix. J'ai fait un message dernièrement sur Jean 1 qui disait que pour pas dire le nom de Dieu, les gens appelaient Dieu la parole. La parole, puis souvent tu vas lire dans les prophètes, c'est écrit « La parole vint à Jérémie ». La parole vint à Jérémie. Comment qu'est venue la parole? T'sais? Il la personnifie, puis il dit « Regarde, on ne veut pas prononcer le nom de Dieu, fait qu'on va dire « La parole est venue ». Ben le mot pour une voix qui vient des cieux, c'était la bat-col, ça voulait dire la fille d'une voix. Puis c'était, pour les Juifs, c'était clair, quand tu entends une voix qui vient des cieux, ben c'est le Créateur qui nous parle. Donc, c'était pas étranger non plus à eux. Et là, se passe quelque chose, c'est que c'est un jour de, présentement, c'est un jour d'onction royale. On peut dire qu'il va être, peu importe que ce soit l'onction royale, sacrificateur ou prophète. Acte 10 va dire ceci, quand que Pierre il va parler justement, puis il va dire, « Hey, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Fait qu'il s'est passé qu'au baptême de Jésus, c'était le commencement de son ministère, puis le Saint-Esprit allait le remplir, et Jésus ne ferait pas les miracles parce qu'il est le Fils de Dieu seulement, mais parce qu'il y avait une relation avec le Père, puis il était rempli de la troisième personne, le Saint-Esprit. Fait qu'il y a une onction, et il y a trois types de personnes qu'on oignait d'huile, puis quand on les oignait d'huile, qu'on mettait de l'huile, le Saint-Esprit venait dans l'Ancien Testament, puis il venait sur eux pour une chose particulière, pour un service particulier, pour une prophétie, pour accomplir leur rôle. T'sais. Et là, le Saint-Esprit est venu sur la personne de Jésus pour qu'il puisse commencer son ministère public. Fait qu'il y a quelque chose qui arrive, c'est que oui, Jean-Baptiste, il va continuer à baptiser, mais à chaque fois, t'sais, il va commencer à envoyer les gens à Jésus, comme vous avez vu dans le passage, là, c'est lui, suivez-le. Fait que le ministère de Jean-Baptiste va réduire, puis le ministère de Jésus, Jésus va commencer à baptiser plus de monde que Jean. Puis là, ben, il va avoir éventuellement, Jean-Baptiste, on en parlera plus tard de ça. Maintenant, si le baptême de Jean est différent du baptême des disciples, pourquoi nous, on a dû le faire ou on doit le faire si on ne l'a pas fait? OK? Puis qu'est-ce qu'il signifie? On va parler un petit peu de la doctrine du baptême dans cette section du message-là. Excellent. Donc, premièrement, ça nous est ordonné. C'est une ordonnance qui nous est donnée dans Matthieu 28. Ça dit « Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle, puis ceux qui croiront, enseignez-leur. » Donc, ça doit être accompagné d'un enseignement. La personne doit être enseignée, puis à chaque fois qu'elle voit ce qui est enseigné, elle devrait vouloir lui obéir. Fait que tu peux pas juste dire, « Hey, on baptise-tu nos kids, là? Let's go. Ah ouais. » Ça ne nous sauve pas de la colère à venir. Ça ne nous donne pas la vie éternelle. Mais c'est un geste qui devrait être accompagné d'une formation où la personne a veut obéir, parce que le texte dit, « Enseignez-leur à obéir à tout ce que Christ nous a enseigné. » Donc, la personne qui est baptisée, normalement, elle veut suivre un processus, elle veut obéir à Dieu. Puis, ce baptême-là doit être fait au nom des trois personnes présentes au baptême de Jésus. Le Père, le Fils qui nous a sauvés, puis le Saint-Esprit qui, lui, va nous baptiser dans l'Église. Donc, il va nous prendre de gens qui étaient en dehors d'une alliance, puis il va nous baptiser dans le corps de Christ. Et 1 Corinthiens 12, 13 va dire, vous avez été baptisés par l'Esprit pour former un seul corps. Puis il y a des mouvements d'Église qui vont dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue, puis c'est que tu es rempli du Saint-Esprit, puis là, ça déborde. Mais c'est justement, tu es rempli du Saint-Esprit, puis ça déborde dans des dons surnaturels parce que tu en as besoin à ce moment-là. Mais c'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est le contraire, c'est toi qui es plongé dans l'Église. Avant, tu étais une personne qui était du dehors, mais quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as été mis dans le dedans, dans Christ. Prenons l'exemple de l'Arche de Noé. Il y a ceux qui étaient dehors, puis qui riaient qu'il y avait un jugement à venir, Puis il y avait ceux qui, pendant 120 ans, construisaient un arche quand il n'y a jamais plu dans un climat tropical humide. Sur le top d'une montagne, il va falloir qu'elle monte haut en tabarouette ton eau. Fait qu'ils sont là, eux autres, puis à chaque jour, ils sont là. Puis ils ramassent leurs matériaux. Puis ils ont de l'air un peu casse de bain. Il n'y a jamais mouillé. Puis tu dis. Fait que là, les gens sont là assis avec leurs chaises pliantes. Puis ils rient d'eux autres à chaque jour. Ils se moquent. Puis à un moment donné, je sais pas, ça a de l'air qu'il était juste 8 quand ça a fini au bout de 120 ans. Fait que c'est long, là, quand même. Fait que il y a des gens du dehors, il y a les gens du dedans. Puis les gens du dedans, ben ils reçoivent le même jugement que les gens du dehors. Le jugement, là, il a mouillé 40 jours, 40 nuits sur toute la surface de la Terre. On retrouve des cadavres de baleines sur les hautes montagnes. On trouve des jellyfish fossilisés. Ça veut dire qu'il y a eu un soulèvement de boue très rapide, parce qu'ils disent que les fossiles disent que c'est la sédimentation tranquillement dans le fond des océans. Ben le jellyfish il aurait eu le temps de vraiment se corrompre. Puis il y a des feuilles fossilisées aussi, toutes sortes d'affaires. Bon, c'est pas non plus un message là-dessus. Fac. Pourquoi j'étais amené là? OK, c'est ça, les gens du dedans, les gens du dehors. Donc, quand que j'ai accepté Christ, on pourrait dire que c'est une image que j'ai été placée dans l'arche. Puis l'arche a subi le même jugement que les gens du monde. Mais moi, j'ai pas reçu la noyade parce que j'ai été protégé, j'ai été placé en Jésus-Christ. Puis Romains 6 va dire, hey, on ne vivra plus dans le péché, là, parce qu'on a été baptisé dans la mort de Christ. On a été baptisé dans sa mort, son ensevelissement. Et on va être en résurrection de vie. On va marcher d'une nouvelle façon. On va être des personnes qui vont marcher d'une nouvelle manière. On ne marchera plus comme les gens du dehors. On est des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. On a été baptisés dans le corps de Christ, dans l'expérience de Christ. Donc, il y a deux ordonnances qui sont données du Seigneur pour l'Église. Il y a la scène et il y a le baptême. La scène, ça parle plus de notre communion avec Christ quand elle est brisée et qu'on doit la restaurer. On doit revenir toujours à cette idée-là que le sang de Christ, son corps et son sang a été versé pour me purifier et me laver de tout péché, pour que je puisse retrouver la communion avec lui. Hein? Ça ne parle pas de ma communion beaucoup avec le reste de l'Église, mais ça parle beaucoup de ma communion avec lui. Tandis que le baptême, ça parle de mon union avec lui. L'union, ici, ce que je veux dire, c'est que on est devenu une même plante avec lui dans la conformité à sa mort, Paul va dire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que Dieu nous a unis à la personne de Jésus pour que, du point de vue céleste, celui qui a été puni, c'est moi à la croix. Donc, il y a une communion intime avec Christ, une union indissoluble avec Christ, c'est que je suis devenu un avec lui. Et pour Dieu, sa mort a été comptabilisée comme sa mort, son ensevelissement a été considéré comme mon ensevelissement, et sa résurrection, ma résurrection. Et donc, ce que ça fait, ça parle de mon union avec Jésus-Christ. Deux ordonnances. La Sainte Cène, une ordonnance à répéter. À chaque fois qu'on en prend, il faut penser, on proclame sa mort, on annonce son retour, à répéter. Le baptême, à ne pas répéter. Sauf si, quand tu as été baptisé la première fois, tu ne croyais pas. Si tu ne croyais pas, bien là, c'est le temps que tu le refasses puis que tu crois. C'est que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire. Donc, le baptême, c'est mon union avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. C'est pour ça que c'est une immersion. Tu es debout, ça représente toi avant Christ. Tu es immergé, ça représente toi avec Christ dans sa mort. Tu ressors de l'eau, ça veut dire que tu es une nouvelle personne avec Christ. C'est un symbole qui vient mettre publiquement qu'est-ce qui s'est passé secrètement. Ou qui vient mettre aujourd'hui ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais ou ce qui s'est passé quand tu as placé ta confiance, que Jésus-Christ avait fait cela pour toi, et à ce moment-là, tu étais devenu un avec lui, bien OK, tu l'as fait. Maintenant, ce que tu as fait dans ton cœur, viens le montrer publiquement. OK? C'est ce que ça fait. C'est un engagement à faire ça une seule fois, c'est pas un sacrement. Et là, ici, je vais passer rapidement, mais l'Église catholique romaine croit à la régénération baptismale. Vous allez entendre quand vous allez au baptême de votre neveu ou de votre nièce qu'il est devenu enfant de Dieu par les eaux du baptême. ils vont dire que le Saint-Esprit est vraiment au-dessus du baptistère et que quand que le prêtre a conféré le baptême, le Saint-Esprit l'a baptisé dans la famille des enfants de Dieu. Okay? Donc, c'est la régénération baptismale. Nous, on ne croit pas que c'est un sacrement. Qu'est-ce que veut dire un sacrement? Pour l'Église catholique romaine, ça veut dire Dieu veut donner sa grosse machine à gomme de bénédiction, mais il faut que tu ailles mettre des 30 sous pour l'avoir. Il faut que tu passes par ses prêtres, l'ordre des prêtres. Il faut que tu ailles dans des rituels. Puis ce rituel-là, c'est une grâce qui va t'être accordée parce que tu as passé par la bonne porte pour recevoir quelque chose qui était gratuit. Donc l'Église va dire que c'est quand même quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose qui t'est donné, mais il faut que tu passes par les bons brokers, les bons intermédiaires. Okay? Donc, bien sûr, l'Église protestante ne croit pas cela, mais une partie, oui. Et d'ailleurs, l'Église réformée, qui vient de la réforme, va dire que le sacrement, c'est un signe et un sceau pour les élus de ce que Dieu a fait. Ils vont comparer ça à la circoncision. Et ils vont enseigner que c'est un moyen de grâce où Dieu s'est engagé envers toi. Et quand tu as cru, c'est lui qui a cru au travers de toi. Puis il t'a donné plein de moyens de grâce. C'est comme si la machine à gomme, il t'a donné avant, plutôt que tu ailles le chercher si tu voulais l'avoir. Les grâces t'étaient données. Tu as reçu la grâce de croire. Ah, tu as été baptisé quand tu étais enfant. Tu as reçu la grâce d'être baptisé. Puis ce baptême-là vient sceller que tu es un élu. Et que tu es un enfant, tu sais, que tu es lié au Christ par ce moyen de grâce-là. Mais si tu n'as pas reçu la grâce plus tard, la grâce de croire, ben c'était le baptême d'un réprouvé. C'est-à-dire quelqu'un que Dieu avait choisi de ne pas sauver. Donc, le moyen de grâce, si tu n'es pas donné de croire plus tard, ton baptême ne sert de rien, on va l'appeler une grâce vide. OK? Mais si tu crois, tu n'as pas besoin de te refaire baptiser parce que tu as reçu la grâce du baptême. C'était un sceau comme une circoncision. Tu ne circoncis pas un juif qui est déjà circoncis. Il n'y a plus de pause. C'est comme tu l'as fait. C'est comme clic-clic, c'est fait. Donc, c'est fait. Mais à cette heure que tu l'as eu, là, tu as cru, tu es un fils d'Abraham parce que tu as eu la circoncision, tu as eu le signe dans la chair. Maintenant, tu as eu le signe dans ton cœur. C'est juste qu'il y a un qui était avant là, puis l'autre était après. Donc, on va dire, Calvin va dire qu'il a l'assurance de son salut parce qu'il a été baptisé quand il était enfant. Mais ça, toute cette théologie calviniste qui vient de Saint-Augustin, qui l'a précédé de bien avant, dit dans le fond que Dieu est maître de tout ou il est maître de rien. Donc, il est maître de tout ce qui se passe dans le monde. J'ai été attristé la semaine passée d'écouter un débat parce qu'il y a un mormon qui essaie de m'évangéliser. J'ai dit dans quelle église j'étais, fait qu'il va sûrement vous écrire aussi sur Facebook, ça va être drôle. Mais moi, j'ai dit, écoute, je suis pasteur puis évangéliste, ne perds pas ton temps. C'est... Mais j'ai quand même envoyé un texte. Il m'a dit, t'as-tu lu le livre de Moroni? J'ai dit, toi, t'as-tu lu la Bible? Il dit, c'est une grosse lecture, je ne l'ai pas encore faite, mais à force de lire le livre des Mormons, je vais finir par tout l'avoir lu. Oui, au travers les lunettes de Mormons. Je comprends. Mais j'étais attristé, mais je suis quand même allé voir des débats. Je me prépare quand même à me débattre avec ce gars-là. Fait que je suis allé voir des débats, puis j'ai vu un débat d'un mormon, puis d'un chrétien évangélique. Je votais pour le mormon presque dans tous les arguments. Moi, savez-vous pourquoi? Parce que les arguments contre Dieu, et surtout le Dieu dépeint par le calvinisme. Un Dieu qui contrôle tout et qui est maître même du péché, de tout ce qui se passe dans le monde. Là, il y a des gens qui parlent sur Facebook, c'est ainsi. Puis un pasteur bien influent au Québec disait c'est Dieu qui envoie une plaie. Puis là, ben, il regarde comment Dieu agissait avec son peuple d'alliance, comme quoi que Dieu corrigeait son peuple quand il voulait qu'il revienne à lui. T'sais. Il dit quand j'enverrai des plaies contre vous, t'sais, puis il dit voyez-vous, il dit Dieu est maître de tout ou il est maître de rien. Fait que on sert un Dieu souverain. Fait que là, t'sais, c'est correct, à quelque part, il est en train de dire, si vous ne pouvez pas vous rassembler là, à cause de la pandémie, je comprends que vous ayez de la peine, tout ça, mais il faut comprendre qu'on a dit souvent, c'est vrai, mais Dieu, il permet ce qu'il haït, puis il va accomplir ce qu'il aime, il va se servir, mais il y a aussi la composante, l'homme est libre. Puis le baptême, c'est ça, l'homme est libre de choisir, écoute, est-ce que je veux répondre moi, à ce sacrifice-là? L'homme est libre de croire. Donc, nous, en tout cas, en tant qu'Église, on s'est beaucoup positionné comme pas neutre face au calvinisme. T'sais. On n'est pas juste neutre, on est contre. On est contre la doctrine du calvinisme. Puis on a fait des conférences, on a fait venir des gens hein, avec l'aide de l'équipe à Natasha Kwan. Puis on n'est pas neutre par rapport à ça. Donc, le baptême, c'est pas un sacrement. Même si l'Église réformée ou les hyper-calvinistes diraient que c'est un moyen de grâce qui est donné par Dieu pour sceller ton salut. Non. On croit que le baptême, c'est important. C'est une des deux choses que Dieu veut qu'on fasse. Je vais juste retrouver ici ma piste. Excellent. Donc, si on revient à l'arrière-plan des Écritures, on va dire, OK, c'est quoi que le baptême voulait dire au temps de Jean-Baptiste? Qu'est-ce que ça voulait dire pour le judaïsme? Ça voulait dire s'identifier à quelqu'un, à un groupe, à un message. Et c'était un bris avec l'identité religieuse passée. Qui? Jésus-Christ, sauveur du monde, qui a pris ma place. Quel message? 1 Corinthiens 15, 2. Je vous ai appris, et d'après que je l'ai reçu, que Christ, après avoir été crucifié, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Je vous l'ai transmis tel que je l'ai reçu. Titre 1 va dire la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il y a ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a fait, mais pas juste ça. C'est aussi un engagement ou une réponse à marcher dans les voies de Dieu. C'est aussi un baptême dans un groupe. Quoi? Oui, c'est un baptême dans la famille des enfants de Dieu, pas dans l'Église Grâce et Vérité, mais dans la famille des enfants de Dieu. Donc, tu as été baptisé par le Saint-Esprit dans l'Église, tu as été incorporé dans l'Église. Donc, c'est un baptême en identification à un groupe. Puis ça parle de notre communion aussi, qu'on a les uns avec les autres. Vous avez ça dans 1 Corinthiens 12, 13. C'est là, on est sur la piste. Pierre va dire, pour vos notes personnelles, que le baptême n'est pas la purification de la souillure de votre corps. Donc, ce n'est pas un bain, là, tu ne vas pas juste te laver. Mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. 1 Pierre 3, 21. Mais le mot peut aussi être traduit par la réponse. C'est la réponse d'une bonne conscience. Puis quand tu lis le chapitre 3 puis le chapitre 4 de Pierre, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui se moquent, des gens qui persécutent les chrétiens. Puis là, Pierre, il leur donne il leur dit, écoutez, il y a des gens qui ont construit une arche. Ils se faisaient moquer, mais ils ont construit l'arche, puis ils ont marché en bonne conscience. Puis il dit, marcher en bonne conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher en bonne conscience? C'est marcher avec la conscience de savoir que tu plais à Dieu, puis te confesser à date, puis c'est de marcher dans l'obéissance au Créateur. Puis là, il dit, là, vous allez commencer à plus aller prendre la drogue avec ces gens-là, vous allez commencer à plus parler en mal des autres. Vous allez commencer à être une personne qui n'abaisse plus les uns pour élever les autres. Vous allez commencer à être différent de eux. Puis Pierre, il dit, vous allez ajouter une confusion, parce que pendant qu'ils vous calomnient, ils vont voir vos bonnes œuvres. Fait que il leur donne un encouragement. Puis là, il leur parle de ces fameux 8 personnes là qui ont rentré dans l'arche. Puis il leur dit qu'ils ont passé au travers de l'eau. Et il dit, cette eau-là était l'image de votre baptême. Et votre baptême vous sauve. C'est ça que le texte dit. Le baptême vous sauve. Fait que là, si tu comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce texte-là, tu vas penser que le baptême te sauve. T'sais. Mais vous connaissez les poupées russes? On va enlever les poupées russes, on commence à la première. L'eau représente le baptême. OK? Donc, on met une autre poupée par-dessus. Là, ça. OK, donc il y avait l'eau du déluge qui a détruit tout sur son passage. OK? Ensuite, il y a votre baptême. Mais votre baptême, là, c'est l'image de quoi? La mort avec Jésus. Donc, c'est l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, le passage dit, et l'eau, c'est pas une purification, c'est pas pour vous purifier, l'eau, c'est pas ça. C'est l'image de l'eau qui est un jugement pendant le jour de Noé. C'est le contraire. L'image, vous autres, avant, c'était par là. Donc, l'eau du déluge est un jugement. L'eau du déluge, c'est un jugement. Donc, l'eau représente le jugement de Christ qui l'a amené dans sa tombe. Donc, on a une autre image qui est, OK, c'est la mort de Christ. OK? Puis là, tu immerges tout ça dans l'eau, puis tu en ressors. C'est le baptême qui vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça que Pierre est vraiment en train de donner une logique d'image, mais il faut que tu mettes les poupées russes une sur l'autre. Si tu ne les mets pas une sur l'autre, tu vas penser que le baptême te sauve. OK? Ça va-tu, je vous ai-tu mélangé? Oui. Ça veut dire qu'il y a encore de la chance, il y a encore la chance que je puisse revenir enseigner. Donc là, il continue, mais relisez, quand vous allez lire là, chapitre 3 puis chapitre 4, relisez-le puis répondez à la question suivante. L'eau du déluge représente quoi dans le baptême? Puis l'eau du baptême représente quoi par rapport à ma croyance? Partout, vous allez trouver qu'on a été baptisé en Christ, on est enseveli avec lui. Donc, vous allez voir le tombeau dans ça, puis je pense que ça va s'uniformiser. Mais lisez le 3 puis le 4 en regardant comment les chrétiens, il faut qu'ils persévèrent, même quand on se moque d'eux, parce qu'il y a des gens du dehors qui ne comprennent pas en tout notre espérance. Puis, tu regardes, fais-toi baptiser. Ça serait la moindre des choses. Comme Jésus a dit, il est convenable qu'on fasse ce qui est juste. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, vieillard qui m'entend, peu importe. C'est une chose convenable que tu répondes avec une bonne conscience. C'est sûr que quand tu signes un contrat, tu veux être certain d'avoir lu toutes les clauses, n'est-ce pas? Je suis en processus de négociation, puis Sarah m'a dit, entente de non-compétition, entente de confidentialité, t'as-tu fait la liste de tes clients? En bonne conscience, ça veut dire de comprendre comme il faut c'est quoi que tu es en train de faire quand tu dis « Oui, Seigneur, je veux te suivre, fait que tu n'es pas là. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je vais tout faire. OK, suis-moi. » Lundi arrive, là, tu es touché par ton émotion, tu as accepté le Sauveur et le Seigneur. Là, le Seigneur va te dire « Bon, OK, suis-moi. Je veux plus que tu regardes ce matériel-là. Je ne veux plus que tu parles avec en mal de la secrétaire ou du patron ou de n'importe qui. Je veux que tu sois différent. Suis-moi. » Tu devrais vouloir dire, écoute, c'est normal, c'est juste de faire ce qui est convenable. Puis dire, ouais, je veux faire ça. Tu sais? Fait qu'on a besoin de s'affirmer, puis de plus en plus, on avance, puis on est redevable à cette croix-là. C'est une conscience, c'est quelque chose qui dit, en bonne conscience, là, après avoir réalisé qu'est-ce que tu as fait pour moi, Jésus, bien moi, ce serait le minimum que je désire faire, qu'est-ce que tu veux. Là, je vais t'obéir avec une bonne conscience. Je vais répondre en un baptême. Non seulement je vais faire des bonnes œuvres, puis ils vont me calomnier, puis ils vont voir mes bonnes œuvres, puis ils vont rougir. C'est dit deux fois au chapitre 3 et c'est dit au chapitre 4. Fait que lui, il continue son illustration et dit, ils ont été sauvés comme au travers de l'eau. Puis qu'est-ce qui a été sauvé? C'est l'arche, mais tout ce qui était dans l'arche a été sauvé avec l'arche. Le jugement est tombé sur toutes les autres, mais Noé, sa femme, les trois fils et les belles-filles sont tous morts et sont allés au séjour des morts avec tous les autres qui s'étaient moqués. Et là, il dit, après qu'il a été ressuscité, le Seigneur, il est devenu juge des vivants et des morts, et il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Deux fois, c'est écrit. Il y en a une fois, il vient proclamer sa victoire. C'est comme s'il disait, même ceux qui ont rejeté le moyen de salut qui était l'arche, je vais aller leur dire que c'était le moyen qu'il y avait pour être sauvé. Ils n'ont pas été des croyants durant leur vie, c'est des réprouvés, mais c'est eux qui ont choisi de se dissocier du Créateur. Il est quand même allé leur dire, « Hey, sais-tu quoi? C'était ça qu'il fallait que tu fasses pour être sauvé, mais il est trop tard. » Pas un pied de nez, mais ils ont le droit de savoir qu'est-ce qu'ils ne savaient pas ou qu'ils ont ignoré. C'est une justice explicative. Mais dans le séjour des morts, il y a une partie négative et une partie positive. Dans la partie négative, on l'appelle, on va lui donner un mot latin qui est venu plus tard, qui s'appelle l'enfer. Puis, du côté positif, il y a le sein d'Abraham, ou qu'on appelle aussi le paradis. Et les croyants qui avaient cru dans l'Ancien Testament sont morts comme les autres. Puis là, le texte va dire, ils sont morts comme les autres, mais Jésus est allé leur prêcher. Puis, il les a ramenés avec lui, puis il les a amenés avec lui dans les cieux. Donc, il explique tout ça dans le chapitre 4, puis dans le fond, il leur dit, découragez-vous pas, à un moment donné, tout va s'expliquer. Tu sais. Vous savez qu'est-ce que vous avez à faire? Vous devez être des disciples de Jésus. faire ce qu'il nous a ordonné, marcher dans ses voies, c'est une réponse juste normale que de dire, ben oui, je vais me faire baptiser, puis oui, je vais l'obéir. Quand que je présente l'Évangile pour accepter Jésus, je leur dis que Jésus veut être le roi, puis il a le droit d'être obéi. Ça fait-tu partie du deal? Fait que là, ça travaille. Puis si il fait partie du deal, ben ça veut dire, tu veux-tu me voir la semaine prochaine? Parce qu'on va apprendre ensemble qu'est-ce qu'il veut. Ah, ben là, c'est parce que tu avais dit que tu voulais obéir. Moi, je veux juste continuer avec toi. J'ai hâte de tomber dans un mode un petit peu plus... je vais le faire, là. Un mode un petit peu plus proactif par rapport à ça. Ma conclusion aujourd'hui, c'est juste normal qu'on veuille obéir à celui qui a obéi à toute la loi pour nous, puis qui est mort pour toutes nos désobéissances passées, présentes et futures. Ça veut dire qu'on ne l'aura pas. On va l'échapper souvent. Puis lui est là maintenant dans son ministère de sacrificateur. Il était dans un ministère de prophète. Il annonçait son royaume à venir. Là, il est dans son ministère de sacrificateur, puis il présente son sang devant le Père. Et il dit, « Julie, j'ai payé pour elle, papa, pour que on puisse continuer à garder la relation. Elle m'a confessé à date. On a une belle... Tu sais, je te prends tout, mais c'est parce que c'est juste toi qui es devant moi. Là, mais ça peut être Jean-Sébastien. » Puis j'aime pas ça dire que je suis Jésus, fait qu'on dit Jésus dit, il présente son sang au Père pour moi. Puis je peux continuer à avoir une relation vivante et personnelle avec lui à cause de son intercession. C'est juste normal que même si mon service n'est pas parfait, il y a compassion de mon service qui est imparfait, puis que je veuille continuer à marcher de mieux en mieux dans ses voies. Et je suis prêt, en pleine bonne conscience, amène-les ton contrat. C'est quoi le contrat? Bien, tu t'engages à marcher en bonne conscience, de répondre en bonne conscience devant Dieu, puis à vouloir marcher dans ce qui lui plaît, puis à t'éloigner de ce qui lui déplaît. Bien, ça veut-tu dire qu'il faut que je sois parfait? Non. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te confesses à date, tu te sanctifies, tu demandes au Seigneur de t'aider, de trouver de l'aide si tu as besoin d'aide, mais tu veux marcher de plus en plus. C'est ça le contrat? C'est ça le contrat. Amène ton contrat. Fais-moi signer ça. Oh, j'ai aucun problème avec ça. Ce serait juste normal qu'on veuille accomplir ce qui est juste. Ce serait juste normal aussi qu'on veuille de plus en plus se séparer de ce qui est injuste puis dire, hey, ça se peut-tu? Parler de même en mal du monde ou faire ci ou faire ça. Je pense que je vais adopter un comportement nouveau comme une personne qui a déjà été baptisée. Comme quelqu'un qui a déjà dit, hey, je veux plus marcher, je veux plus participer au péché d'autrui. C'est aussi juste normal, c'est juste une demande normale que de dire que je vais être uni avec le corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 1, il dit, hey, là, il dit, c'est quoi? Il y a de la division dans l'Église. Il y en a un qui dit qu'il est de Paul, l'autre qui est d'Apollos, l'autre qui est de Si. Il dit, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Là, je vois mon temps qui avance. Donc, non, Paul n'a pas été crucifié pour vous. Fait qu'il dit, pourquoi le corps serait divisé? Donc, Christ n'est pas divisé. Donc, on a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, baptisé aussi, de dire, hey, on a été baptisé dans une église, pas dans 20 églises. On a été baptisé dans un corps pour former un corps, une famille spirituelle. Et donc, je devrais aussi vouloir être uni parce que Christ nous a ramenés en dehors et nous a mis dans les gens du dedans. Donc, on devrait vouloir vivre en paix les uns avec les autres parce que Christ va être glorifié quand on va être unis. Puis les gens vont reconnaître que le Père a envoyé le Fils parce qu'on est unis. Et finalement, je devrais vouloir faire un disciple avec quelqu'un. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Tous les chemins mènent à Rome. » Puis j'ai dit, « Fais-tu beau dehors? » Puis je dis, « Dieu nous a-t-il donné une belle création? » Puis lui, la personne a dit quelque chose comme, « Ah, mais tu sais, peu importe quel Dieu. » J'ai dit, « Sais-tu quoi? » J'ai dit, « Les gens sont bénis, même s'ils ne croient pas en lui. » Moi, je n'ai pas dit que c'était plusieurs. Ben, lui, je l'ai fait passer de moins 10, peut-être pas de moins 10 à moins 9, mais je le cuisine pour l'amener à moins 7, moins 6, moins 5. Puis à un moment donné, on va parler de Dieu en Jésus-Christ. Il y en a un autre, lui, c'est ses relations avec son père, sa relation avec ses fils, ça, c'est sa vie, tu comprends? Il n'y a rien d'autre qui existe dans sa vie. J'ai dit, sais-tu quoi? Moi, j'ai un père, mon père dans le ciel, là, il veut que je fasse qu'est-ce qu'il m'a demandé. Fait que ça, c'est mes priorités, ces temps-ci. Parce que j'avais à discuter avec lui de quelque chose. On aide les gens à passer de moins 10 à 0. À 0, ils acceptent le Seigneur, puis après ça, on continue. Là. Pensez pas que de faire des disciples, c'est de prendre un cours de 16 semaines, puis d'avoir un cours, que tu aies toi-même suivi une formation. Non, on est l'odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, mais aussi parmi ceux qui périssent. Fait que le baptême, c'est aussi ça. C'est d'aller par tout le monde. Je veux dire, j'ai mon ami Sandra, j'ai mon frère Jean-Claude, puis Dieu m'a placé ici pour en sauver un maximum. Fait que je vais aussi pas garder ma bouche fermée. C'est ça notre baptême. C'est d'aller par tout le monde faire des disciples. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la doctrine du baptême. Merci pour mes auditeurs qui ont été patients avec moi. Je te prie, Seigneur Dieu, s'il y en a qui ne sont pas baptisés, que ça continue à cuisiner. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas aussi le message de la vie éternelle. Eh bien, simplement, on croit que Jésus-Christ a été frappé de Dieu et humilié pour nos péchés, même si c'était les pécheurs qui l'ont crucifié. Dans ce cas-là, on croit que, oui, effectivement, Dieu a laissé faire pour que Christ porte la punition que méritaient nos péchés. Et à cause qu'il a fait cela, c'est comptabilisé comme si on l'avait fait. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Et on croit cela, et parce qu'on a cru ça, Dieu nous a offert la vie éternelle en Jésus-Christ. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de reconnaître qu'il a fait cela pour vous, en répétant cette prière. Vous pouvez la faire à voix haute si vous voulez, accompagner, nous accompagner. Vous pouvez aussi la faire tout simplement dans votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'aimes, que tu es venu sur la terre pour être puni à ma place. Tu as accompli toute la loi aussi à ma place. Tu as été enseveli. Le troisième jour, tu es ressuscité. Je le crois et je l'accepte. Et je t'accepte comme mon sauveur. Je t'ouvre mon cœur pour que tu sois le maître de ma vie et que tu me conduises aussi à marcher avec toi à tous les jours. Amen. Que Dieu vous bénisse. On ne va pas faire de chant de la fin. Et puis, pendant que tranquillement le rassemblement se finit, je vais me brancher sur Zoom pour saluer les gens. Fait que je vous souhaite un bon dimanche. Merci.